Youssef, donc hein, voici en pièce jointe. Et voilà, c'est fait. Demande de grâce royale pour Ali Arras. Lettre à Sa Majesté Mohamed VI. Votre Majesté, vous êtes le garant de la Constitution aux yeux du peuple marocain et d'une justice équitable pour chaque citoyen. C'est avec le plus grand respect que je me permets de vous informer du cas de mon frère Ali Arras, détenu à la prison de Tiflet 2, où il est maintenu en total isolement jusqu'à ce jour. Ali Arras est belgo-marocain, marié et père d'une petite fille de 11 ans. Jusqu'à ce jour, il subit une erreur de justice dans la mesure où il est innocent des accusations contre lui. Il est détenu au Maroc depuis décembre 2010, après son extradition par l'Espagne, où il avait pourtant bénéficié d'un non-lieu. Une enquête y avait en effet été menée avec la plus grande rigueur par un juge d'instruction réputé mondialement pour les affaires de terrorisme, le juge Balthazar Garçon. Cependant, à la plus grande surprise de ses avocats belges et marocains, ainsi que de notre famille, il a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement réduite à 12 années en appel. La condamnation se base sur des prétendus aveux en arabe, langue qu'il ne comprend pas. Mon frère clame son innocence depuis le premier jour de son incarcération. Plusieurs comités de soutien et associations, tant en Belgique qu'en Europe, dont des associations de Marocains du monde, sont solidaires du cas de Ali Arras et tentent de convaincre les institutions et la justice marocaine de le libérer. Ce soutien se traduit notamment par une correspondance soutenue avec Ali. Mais jusqu'ici, les autorités marocaines restent sourdes à toutes les demandes de libération, au point que par désespoir, Ali a mis plusieurs fois sa vie en danger en entamant de longues grèves de la faim. La dernière, en août 2015, a duré 72 jours. Ali est un homme bon, un mari bienveillant, un père affectueux, un frère aimant et un ami fidèle. L'image dépeinte de lui durant ses procès successifs n'est pas conforme à la réalité. Dieu sait à quel point. Aujourd'hui, toutes les voies de recours paraissent épuisées ou sans issue. C'est pourquoi, sire, toute notre famille met ses derniers espoirs en vous. Vous êtes un roi bon et généreux envers les plus humbles. Mes parents, âgés, espèrent tellement revoir Ali avant leur dernier soupir. Ils parlent de vous comme d'un fils. Ali est né d'ailleurs la même année que vous. Il a donc votre âge. Puisse Dieu vous accorder la prospérité, la santé et tous les bienfaits de ce monde, qu'il préserve votre famille et vous comble de joie auprès d'elle. Je vous prie de bien vouloir croire votre majesté en l'assurance de mes respectueuses et honorables salutations. Pour la famille Arras au Maroc, en Espagne et en Belgique, Farida Arras, sœur d'Ali Arras. Ah, Malaga, là-bas. 6h30, pas encore. Un foguette à 5h45. On n'aura pas l'info avant 5h45. On va aller s'installer. J'ai une toilette pour faire mes ablutions. Comme ça, je suis prête à faire une prière dans l'avion.
Fadjer. Tu vas la faire au milieu?
Comment ça au milieu?
Dans l'allée centrale.
Ouais. Je vais même crier très haut le Allahu Akbar. Je sens qu'il y en a qui vont avoir une crise cardiaque ici, des infarctus. Non, non. Je la ferai dans l'avion. Notre envol, les airs, ça va nous bercer.
C'est quoi la dernière fois que tu es venue à Melilla?
Ça fait un an et demi.
À la même période?
Non, ça fait. C'était en juin 2015. Ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas vu mon père. Il me manquait terriblement.
Tu veux y aller, hein?
Il faut mettre ton manteau parce que à l'extérieur il fait froid. Hein. On y va, hein. On va embarquer.
T'as vu ça ? J'aime bien entendre l'avion qui déchire le ciel comme ça. Qui déchire le ciel.
Le cœur d'Ali Arras.
Épisode 2, Melila Larifen. Ayúdame.
Oui, ayúdame, yo no escucho esa canción en mi vida.
Donc on a été accueillis par mon frère Hamza, mon jeune frère.
Mes hermanas.
Qui est venu nous chercher à l'aéroport et qui nous ramène ici au port parce qu'on doit prendre un bateau pour aller jusqu'à Melila. Hamza qui a 25 ans. Et qui pour le moment travaille ici dans la ville de Malaga. Cuéntalo lo que tú sientes a propósito de la detención que está viviendo tu hermano Ali.
Lo que yo siento de la detención. Ah, ante todo se llama impotencia. El saber la injusticia, el ver que un hombre con hijo,
mujer. Il fait part de son sentiment d'impuissance face à l'arbitraire que vit son frère, qu'il considère. Il parle d'un homme qui n'a commis aucun crime et qui n'est pas un gamin qui aurait commis un acte de vol ou quelque agression. C'est un homme mature, père de famille, époux et fils. Et donc, du coup, il dit que voilà, il préfère carrément ne pas savoir, ne pas avoir les détails de ce qu'il vit parce que ça le rend malade, ça l'affecte énormément. Intérieurement, de ne pas pouvoir justement faire quelque chose pour l'aider. Donc voilà, en fait, le sentiment qui lui revient le plus fort, c'est son sentiment d'impuissance.
Me siento español por sentimiento de que soy español porque he nacido en España, pero puesto que no estoy viviendo en Melilla por algo eso, estoy fuera de Melilla por la injusticia que ve uno en Melilla diariamente.
Hamza fait allusion à ce qu'on appelle les deux poids de mesure. Il les sent très fort aussi à Melilla. Celui qui veut étudier, il peut étudier, mais au final, donc, in fine, celui qui a toutes les chances de réussir, ce n'est pas celui qui est d'origine RIF, donc c'est l'espagnol d'origine, de souche, donc Pepe Antonio, comme il dit. Et quand on s'appelle Mohamed ou Hamza, ben non, on n'a pas les mêmes chances. Jamais tu n'auras droit à faire une carrière dans la police ou en tant que fonctionnaire. Soit tu es dans les petits métiers. C'est aussi une forme d'exprimer l'arbitraire, l'injustice qui se vit au quotidien là-bas. Et il explique que lui, il préfère vivre en dehors de Melilla justement à cause de ça, parce que c'est insupportable à vivre.
Si el Ali, pero vamos a ver, si el Ali no, si mi hermano no hubiera sido ni melillense, ni se llamara Ali, ni fuese Melilla, ¿cómo vas a coger tú una persona y le vas a decir que eres terrorista cuando esa persona no lo es?
Pour Hamza, ça semble évident qu'il y a trois facteurs qui interviennent dans le fait qu'Ali soit victime de ces dérives de la lutte antiterroriste. Donc c'est le fait qu'il est de Melilla, qu'il soit d'origine RIF et qu'il s'appelle Ali. Il y a un acharnement contre les musulmans, ils servent de bouc émissaire. Alors qu'ils savent très bien qu'au niveau du vrai terrorisme, du réel terrorisme, il y a beaucoup plus de personnes qui ne font pas partie de la communauté musulmane, on va dire, qui sont attrapées avec des armes, avec des arsenals et tout ça, mais on leur fait pas porter le titre de terroriste, mais voilà, parce qu'il y a un Pepe, parce qu'il y a un Antonio, et que la plupart du temps, on les libère. Tandis que quand tu es musulman, ben, c'est chose faite, sans preuve, pas besoin d'avoir des preuves.
Cuando vi tus labios presos a los de otro, hasta el pulso de mi vena se paró. y sentí mi corazón igual que un potro derrotarse con los celos y el dolor.
Dale, puñal, compa.
Yo busco puñales.
¡Ole!
Olha de Medea.
Tu te chama Farida, tu te chama Lolita.
Punhal, eu busco um punhal. Com ele quisiera cortar-me la vena para não pensar. Ai, Deus meu, de minha alma. Ay, Dios mío, de mi alma. Ay, 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 Dios mío, de mi alma, la vela para no pensar.
¡Olé!
¡Olé!
Bueno, ya nos vamos, ya para allá.
Vale.
Son las dos.
On va aller vers le port parce qu'on va bientôt embarquer. A embarcar.
¿Qué, mamá?
Venga. Je me suis toujours sentie andalouse, ça c'est quelque chose de... C'est comme ça. En fait, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est posé des questions d'où je suis et ce que je suis. Ça, pour moi, déjà, je suis quelqu'un d'assez contre toutes ces frontières et contre tout. Après, bon, tu es né où tu es né, tu es originaire d'où tu es, que tu le veuilles ou pas, c'est ça, c'est malgré toi. C'est comme ton physique, c'est comme ta couleur des yeux, tu es né avec. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait un choix. Donc voilà quoi. Et, après, quand je voyageais par exemple de la Belgique vers Melilla, déjà les rares fois où j'ai fait ce voyage en car avec ma mère à l'époque, quand on rentrait dans la zone espagnole, je me sentais déjà chez moi. Tu vois ? Et bizarrement, alors que je suis d'origine marocaine, je n'ai jamais vécu au Maroc et je ne rentrais jamais au Maroc. Parce que tout se passait à Melilla et donc on n'a pas besoin de rentrer au Maroc. Et c'est assez mal vu aussi par les personnes, les Marocains d'origine qui sont très nationalistes parce que pour eux, c'est comme si tu étais dans le déni de ton origine alors que tu n'as pas d'attache. Comment tu veux que je parle d'un pays qui n'a pas été le mien ? C'est assez... Moi, j'ai toujours été surprise et à un moment donné, quand j'étais jeune maman, je me rappelle que les femmes d'origine marocaine me mettaient mal à l'aise par rapport à ça. Elles me mettaient mal à l'aise parce qu'elles me disaient... au début, c'était parce que je ne maîtrisais pas la langue arabe. Et on me disait, oui, mais tu renies tes origines, tu préfères ne rien savoir. Tu parles toujours de l'Espagne, de tes origines espagnoles. Mais c'est tout ce que j'avais en moi, tu vois, j'avais pas de culture... C'est une culture espagnole. Et on est rif. C'est particulier. C'est particulier, hein. Ah, on ne choisit pas. Mais je pense qu'aussi, l'histoire a une grande place dans... Le Maroc, il est rancunier. On sent la rancune par rapport à l'histoire de Melilla, les Rifains de Melilla, parce qu'ils ont absolument tenu à devenir des Espagnols. Je pense qu'on aurait préféré qu'ils restent tout le temps dans les inégalités de droits et tout ça, qu'ils ne revendiquent pas le droit à être égal aux autres citoyens espagnols. Et que, voilà, d'une certaine manière, ils continuent à porter la nationalité marocaine alors qu'ils ne se considéraient même pas comme marocains. C'est assez paradoxal, en fait. C'est perturbant. C'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'à Melilla, donc à l'époque, il y avait eu
l'armée espagnole qui avait enrôlé les Rifains pour attaquer les Marocains. Et bon, bah, ils n'avaient pas le choix, hein. Ils étaient sur le territoire espagnol, ils se faisaient enrôler. Bah, il y a aussi de ça. Hein.
Ton père, ça lui arrivait, ça ?
Non, il n'avait pas l'âge de faire la guerre, mais mon grand-père, par exemple, maternel, oui. Il avait même été blessé à la jambe, donc il a passé toute sa vie à boiter. Il avait reçu une balle à la jambe, donc ça s'est mal passé après. Il les mettait en avant. Hein. Il y en a beaucoup qui sont morts. C'est comme des tirailleurs, mais en même temps, ils sont très mal vus aujourd'hui par l'État marocain. Parce que pour eux, c'était des gens qui ont combattu l'armée marocaine. Dis-moi, Ali. Oui, je t'écoute. Ouais, on n'a pas pu... le bateau, il sort que maintenant, à 3h30, il démarre. Ça va, toi ? Alhamdoulilah, et toi ? Est-ce qu'il y a eu du changement ? Toujours rien. T'as reçu de la visite ? Non plus. Et du courrier ? Rien. Ok, ça va. Khair, inshallah. Ça va, alhamdoulilah, Maino. Si, si, ça va. Le voyage ? Bah, on y a encore la moitié à faire, hein. Mais ça va aller, papa, il est content. Mais oui, ça. T'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Ouais. T'as appelé Huria? Ah, tu vas l'appeler. Ok, d'accord, ça va. Tu veux pas me dire quelque chose? Y a rien à dire? Oui, lui, il est à la fois avocat, mais il est aussi le directeur de l'observatoire de prison. Non, j'ai toujours pas de nouvelles. Il voulait venir, mais on lui a dit non. On lui a refusé de te visiter. Il essaye encore, hein. Bah, allez. Oui, ne t'inquiète pas, et la balle de tennis. Ouais. Dans le pire de cas, ce que je vais faire, je vais te les envoyer de là-bas, de la Belgique. Vale? Un abrazo muy fuerte, Maino. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate, ¿eh? Salam alaikum. Aucun changement, c'est dingue. Aucun changement. Aucune lettre, aucune visite. Il est content parce qu'il sait qu'on va aller voir mon père. Il m'a dit, remonte-lui bien le moral, hein. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Quand je l'avais souvent au téléphone, et on riait énormément. Et là, c'est du tac, 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 tac. C'est de l'expéditif. Et j'ai bien compris que c'est une façon de nous réduire au silence, de couper en fait le cordon entre lui et moi pour qu'on sache le moins possible.
5 minutes par semaine, c'est...
C'est horrible. C'est horrible. Ça va aller tout doucement.
Alors on est où et on voit quoi?
Là on est assis sur le pont arrière du bateau, devant un magnifique soleil couchant. Il fait doux. Il y a le bruit de la mer et le bruit du paquebot. Sans l'iode. Et on est seul, donc on a l'impression d'être les reines du monde. Hein, Farida? On n'est pas les reines du monde, là?
Oui, on a l'impression que le monde est à nous. Tu vois? L'océan est devant nous. Il nous entoure, en fait. On est au centre.
On est en train de traverser la mer de Malaga à Melilla. Et étrangement, on a vraiment le sentiment d'être au centre de la terre, entouré d'eau, des grandes quantités d'eau, l'élément le plus important dans la vie. L'eau, de partout, avec une magnifique couleur bleu azur. L'écume qui est rejetée par le mouvement du moteur du bateau. C'est magnifique. Et on a à notre gauche le coucher du soleil. Le soleil qui brille de tout son éclat et qui nous esquisse un magnifique sourire en nous disant « Bientôt, à demain, je serai là, fidèle. » On l'espère en tout cas. C'est magnifique. On a l'impression qu'on est ailleurs. On a un peu le sentiment que le temps s'est arrêté, que nous sommes au milieu de l'océan et qu'on y est pour un bon bout de temps. On oublie le reste du monde et on se concentre sur la pure merveille qu'on a autour de nous. C'est les femmes qui sont venues nous chercher. Elles vont redescendre. C'est la femme de mon père et ma petite sœur. La petite sœur de Hamza, qui va la petite dernière. Oui, largo.
La niña, on
va
bien. Tu viens de ta? Si. Voilà. Voilà. Nous sommes
rassis à la halle. Rassis? Viens.
Et d'un état?
Viens, frontière, viens. Quand tu vas être là, viens. Kimberen.
Parle en riche, donc je comprends pas du tout ce qu'ils se disent. Par contre, tu peux demander à Paris d'être sur la traduction.
Toi, tu parles Paris.
Non, moi, je parle.
Tu parles arabe.
Arabe. Ouais.
Toi, t'es né à Bruxelles.
Voilà, exactement.
D'accord. Parce que là, on va à la frontière.
Ouais.
Et la frontière de quoi,
je crois
en
qu'elle
fait
parle d'une route à l'intérieur, pas ici. Là, on va à la frontière entre Melilla et le Maroc. Tu vois?
L'arabia, ils te disent. L'arabia. Donc, mon arabe à moi, Talaf Drouche. Talaf Drouche. Ça veut dire, il monte les escaliers. De façon de dire qu'il est fatigué, que c'est pas tip-top les bonnes expressions et la bonne manière de formuler parfois les choses.
C'est comme ça qu'hier, tu me racontais que quand tu étais en Belgique, tu pensais que tu étais marocaine et que c'est une fois que tu allais au Maroc que tu t'es rendu compte que tu étais belge.
Qu'on m'a renvoyé à ma belgitude. Ou à mon européanité. Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais marocaine parce que mes grands-pères ont tous les deux, du côté paternel et maternel, ont immigré à Bruxelles, en Belgique, d'abord. Une année ou deux ans avant qu'ils me ramènent leur famille. Et donc, mes parents sont arrivés ici à 15-16 ans et se sont mariés ici en Belgique. Et moi, je suis née donc ici. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être marocaine. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais marocaine, d'abord. Puis autour de moi, j'étais entourée de Marocains et de Marocaines. Et socialement, à l'école, par exemple, on était... En primaire, par exemple, on n'était pas dans des classes mélangées. Il y avait trois classes, donc la classe A, B et C. Et dans la classe des A, ben, il y avait tous les jeunes enfants qui étaient... Il y avait le faciès, en tout cas européen. En B, il y avait un petit mélange. Et en C, il n'y avait que les gens qui me ressemblaient, c'est-à-dire des Maghrébins. Et j'ai grandi avec eux.
Et donc, tu te sentais étrangère en Belgique quand tu étais enfant?
En tout cas, d'être marocain et de ne pas être comme les autres. Par exemple, un exemple, hein, quand on était petit, qu'il y avait un mariage, une fête, qu'on nous mettait du henné... Parfois, on craquait, on en mettait, mais on savait qu'en arrivant à l'école, on se ferait en guirlandais, par exemple. Parce qu'on a mis du henné. Parce que c'était quelque chose qui avait trait à du religieux, selon certains enseignants.
En guirlandais, tu veux dire même disputé, tu me disais.
Oui. J'avais une enseignante en particulier qui supportait pas de voir des enfants avec du henné. Elle trouvait ça sale. Elle nous demandait d'aller nous laver les mains. Et on devait lui expliquer que ça ne partait pas. Il fallait attendre quelques jours. Et elle nous disait que si on revenait avec ça la fois d'après, elle nous retirerait des points ou qu'on serait punis. Donc il y a une part de ma culture ou de en tout cas de mon héritage familial que je ne faisais pas que je ne montrais pas aux autres, pas aux enseignants. Au point même que j'ai connu une petite période, ça n'a pas duré longtemps heureusement, où je ne voulais pas qu'on m'entende parler arabe. Qu'une enseignante ou qu'un enseignant m'entende parler arabe, pour moi c'était presque humiliant entre guillemets. Je crois que j'avais le complexe du colonisé. C'est ridicule, mais
non.
Je l'avais.
Et alors du coup, par contre, quand tu arrives en tant que jeune femme au Maroc et que tu fais tes premiers voyages, là on te dit que
tu as très vite renvoyé à ce que je à ma non-marocanité, à mon européanité en fait, parce que mon arabe est pas parfait, parce que ma façon de penser est pas la même, mon humour est pas le même, un message subliminal qui peut être envoyé dans la langue arabe, je ne vais peut-être pas forcément le comprendre.
Ouais, parti.
On y est.
Que no quiere abrir la puerta.
Il est là, mon frère. Vas-y.
Il va pas?
Il se cache.
Salam alaikum. Non, parce qu'il ne peut pas se retenir longtemps. Allez, Denise. Hola, Tita, ¿qué tal? Te echo de menos.
Porque estás no si uno contesta, pues si tú contestas, yo estoy otro sitio.
Yo siempre. No sé cómo te lo tomas así, negro.
Gracias. Je n'avais pas les sous-vêtements, là, de lui ramener. Et les chaussettes. Tu lui dis que les chaussettes, c'est Rose qui le lui a offert. Il sait qui c'est parce qu'il reçoit des livres de la part de Rose.
Tu vas aller que les guantes.
Pour que les guantes. Ah, on s'en a apporté. Chaudes. Des gants très chauds. Il
ne donnerait pas qu'à ça les donner à quelqu'un, lui. Dès qu'il voit quelqu'un dans l'heure.
Oui. Il pense à le plus démuni que lui. En fait, il y a des personnes qui n'ont personne qui viennent les voir ou que leur apporte. Quand il était à Salé, il voit ces gens comme ça, il se dit, bon, je peux tirer de moi et donner à la personne. C'est quelqu'un qui est dans
tout ce qu'il reçoit, il donne.
Il est comme ça, hein, je le connais. On était ensemble, quand il voyait quelqu'un qui avait besoin, il prenait ses vêtements à lui ou des choses à lui que moi, je lui ai parfois acheté, que je le voulais pour lui, il le prend, il le donne à autre.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça c'est Ali. Il ne va même pas t'avertir.
C'est sa façon à lui de vivre. C'est sa façon à lui d'exister, c'est de rester lui, toujours en train de s'occuper des autres. Et c'est pour ça qu'ils l'ont isolé. Parce qu'ils savent que lui, son souffle, c'est pouvoir être entre les autres. Tu vois?
C'est pour ça que je te disais, justement, s'il sort de là, c'est pas quelqu'un qui va rester au bois croisé.
Non, ça c'est clair.
Il va se battre pour ceux qui sont dedans. Donc il va faire tout pour essayer de les aider aussi. La vie, c'est la vie. On a des épreuves dans la vie. Chacun à sa manière, quoi. Si j'aurais pensé un jour que ça va m'arriver ici à Melilla, je pense que je serais restée en Belgique. Avec tout ce qui se passe, ce qui est arrivé maintenant. Lui, il est venu pour être près de son père, parce que son père, comment il est, il m'a dit, je vais aller vivre là-bas, faire un commerce et être plus près de lui. Parce qu'il il adore Melilla. T'as vu comment c'est pour vivre et tout ça? Mais malheureusement, la première année, ça a commencé déjà les problèmes. Hein. Ça t'empêche de vivre comme toi tu veux. Hein? Le célèbre juge Baltar Gerson, il a fait toute une enquête sur lui pendant 2 ans. Il n'a pas trouvé le moindre indice qui pouvait prouver qu'il avait, il avait quoi que ce soit qu'on ait un réseau terroriste ou que c'est. Tu sais ce
qu'il dit?
Il a prononcé un non-lieu parce qu'il n'y avait rien.
Que si, que Ali no tiene nada. Porque Marruecos no tiene nada contra él, porque no tienen. Pasa que están en contra de él porque él ha sacado lo de la tortura.
Uh-huh. Él dice que Ali ha hablado de la tortura, sobre todo que él ha sido el emblema de Amnesty International, porque Amnesty International ha hecho una campaña Stop Torture a nivel mundial. Es algo que ha corrido en el mundo entero, ¿tú ves? Et c'est gâcher l'image du Maroc, parce qu'il n'y avait que 5 pays qui ont été choisis.
En fait,
et l'un des 5 pays, c'est le Maroc, qui, eux, se prétendent être un pays en voie d'évolution dans le respect des droits de l'homme. C'est une claque, hein.
Tu vois, quand il a été détenu, il y avait un autre qui a été détenu, un Espagnol. Et lui, on l'a relâché parce qu'il avait la nationalité espagnole, alors qu'Ali avait le double nationalité. Donc, ils ont choisi de extrader Ali que l'autre. Et c'était la même chose. Exactement le même cas. Donc, on n'arrive pas à comprendre, est-ce que je suis belge ou je ne suis pas belge? Donc, s'il peut arriver quoi que ce soit, est-ce que la Belgique va intervenir pour moi si je suis à l'extérieur de Bruxelles? C'est le problème, la double nationalité, je pense. Je crois qu'ils vont penser à deux fois pour aller voyager au Maroc. La majorité des gens qui connaissent le cas de Ali. Parce que s'il leur arrive quelque chose, ils disent que la Belgique ne va pas intervenir. Déjà, en Espagne, ils ne bougeaient pas. Quand ils étaient en Espagne, ils ne bougeaient pas. Soi-disant, ils ont bougé au moment où il a été extradé.
Jamais il n'a bougé en 2 ans et 8 mois. Soudain, il y va le 15, le lendemain de son extradition. C'est un peu fort, hein.
Moi, je pense que s'ils avaient bougé là-bas, je ne pense pas qu'Ali aurait été dans cette situation.
C'est l'abandon de la Belgique qui a autorisé l'Espagne à agir comme ils l'ont fait.
J'oublierai jamais Ali quand il m'a dit que quand il l'a mis dans l'avion, il a vu le poisson qui descendait, les caisses de poisson. Lui, il a vu de la, tu vois, la petite fenêtre. Il a dit, on m'a échangé contre du poisson. L'Espagne l'a échangé contre le Maroc, contre du poisson.
Oui, c'est une façon de parler, voilà. Quoi.
C'est-à-dire, c'est comme une marchandise, quoi. Je te donne ça et tu me donnes ça, et voilà, on est quitte. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est quand même, ça fait déjà presque 9 ans, et c'est dur, hein. Très, très dur de vivre comme ça. Pobrecito, a mí no me gusta que está tan salajadora.
Pero qué bonita es Melilla. Qué bonita es Melilla. Melilla de mi corazón, Melilla de mis amores, Melilla de mi infancia, Melilla. De mis dolores.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Des secrets.
Des secrets. On n'est pas dans la salle de los secretos.
Si, de la Alhambra.
Aquí no estamos. Estamos en Melilla la Vieja.
Je suis en train de voyager dans le temps.
Où ça?
Dans le temps historique de la ville de Melilla.
Ah bon?
Claro.
Et on est à quel chapitre?
Un chapitre où on chargeait les canons pour faire feu.
Avec ton grand-père?
Ouais.
C'était qui ton grand-père?
La Jiaya.
C'est-à-dire?
La Jiaya. C'était un compagnon de lutte. Abdelkrim el-Khattabi.
C'était qui ça?
Abdelkrim el-Khattabi.
C'était qui?
Comment ça, c'était qui? Mais qui ne le sait pas, qui était Abdelkrim el-Khattabi?
Tu crois qu'en Belgique, ils savent ce qui est Abdelkrim el-Khattabi?
Bien sûr, il fait partie de l'histoire au niveau mondial.
Même les Belges?
Même les Belges, tout le monde entier le sait. Alors, t'imagines ma fierté? Mon grand-père était un combattant, un homme libre.
Un terroriste?
Non. Un combattant. Un combattant. Un djihadiste, mais dans le bon sens du terme, et pas dans le sens qu'on veut absolument donner au terme djihadiste au niveau mondial. Les vrais terroristes, on sait où ils sont.
Ils sont
au pouvoir. Ouais. Les guerres, c'est l'horreur.
Mais après ça, c'est quand même beau de voir des hommes défendre leur bien, leur famille, leur vie, leur dignité, leur liberté. C'est des vrais hommes.
Ils n'ont pas été cherchés à agresser quiconque, ils ont juste voulu défendre leur bien, leurs droits. Ça, c'est des vrais hommes.
On marche les escaliers qui mènent à la maison du père de Farida.
On est déjà arrivé.
C'est qu'il faut le mériter, le Mustapha. Voilà, et on arrive à la rue Calle Falangista Pérez Oces.
Il travaillait sous les ordres de Franco.
Buenos días,
Amé.
Buenos días,
Buenos días.
حق دلتي في المغرب
كان يحكم اسبانيا في اسبانيا تما
في ديني على الوقت اللي اسبانيا كان était encore au Maroc
était
sous protectorat espagnol donc lui il est né en Espagne
nosotros estábamos con España teníamos una documentación que se llama estadística
tarjeta donc cette carte de estadística c'est un peu une carte qui obligeait tous les rifains à s'inscrire, à s'enregistrer, comme pour faire un recensement, sans pour autant leur donner aucun droit. Donc, ils ne sont pas considérés comme espagnols.
Comme tratándonos a nosotros que somos nativos de aquí, como extranjeros. Et nosotros hemos dicho non. De extranjeros, nada.
Ils ont voulu retirer cette carte et leur attribuer une carte encore, qui leur donne encore moins de valeur. C'est une carte d'étranger, à laquelle, du coup, ils se sont tous opposés en disant « Il n'en est pas question, les étrangers, ce n'est pas nous, mais vous. » La lutte a commencé en 1985. Eux, ils étaient à 5. Lui, donc mon père, et 4 autres jeunes, ils ont commencé à faire du porte-à-porte auprès des rifs de Melilla et les informer qu'il faut refuser cette carte d'étranger, refuser de signer, et d'exiger la nationalité espagnole.
Nosotros somos nativos, tranjeros, voilà, nada.
Nous sommes des natifs, tranjero et pas d'étrangers, nada. Non à l'étrangéité, ça se dit?
Toujours, día y noche, guerra.
Jour et nuit.
Los españoles que viven, no duermen.
Les résidents espagnols ne dormaient pas.
No duermen de noche, eterna, alerta.
Ils avaient peur.
Porque vamos al día muy fuerte, eso así, muy fuerte.
Et donc, ton père, il est devenu espagnol au bout de la lutte, alors?
Non, même pas. Non.
Mami?
Tu no fuiste espagnol después de 4 años de lucha?
Yo hace 2 años que me l'han dado.
Il était vu comme complice de Doudou, donc...
Me dijeron que yo no residía.
3 ans et demi à environ qu'il a reçu sa nationalité espagnole en 2012. Son avocat a écrit et a envoyé cette plainte contre l'État espagnol.
Yo... ¿Cómo voy a denegar una cosa si a mí me daban una estadística que no me servía ni para pintar una pared?
Donc il dit au juge, comment est-ce que vous voulez que je réagisse au fait que, alors que nous sommes des Melillense, donc natifs de Melilla, et qu'on a une carte des statistiques et qu'on veut nous la retirer pour nous donner pire encore, donc une carte d'étranger, comment vous voulez que moi je ne conteste pas ça?
Yo no soy extranjero.
Je ne suis pas étranger.
¿Sabes? Yo he hecho la mili en España y luego he hecho los campeonatos nacionales de España.
J'ai fait 7 ans donc de service militaire en Espagne et puis j'ai fait les championnats nationaux. Donc championnat de natation.
Con una medalla de oro. Dice, sí.
¿Y qué dijo el juez?
El juez dice, tiene usted razón.
Il lui a dit, vous avez raison. Et le juge demande à l'avocat, est-ce que vous avez des questions à poser? Et l'avocat dit oui.
L'avocat me va demander, Señor Mustafa, usted a su edad, ¿para qué quiere la documentación?
Et l'avocat lui demande à lui, Monsieur Mustafa, pourquoi à votre âge, vous voulez avoir la documentation espagnole?
Porque no quiero que me... Porque quiero ser español y no quiero que me gobierne Marruecos.
No, ha dicho que no quería morirte marroquín.
Il
veut pas mourir marocain. Y ser rifeño, un ¿qué
orgullo,
significa?
Un orgullo, los rifeños somos... Muy un orgullo, los rifeños.
L'orgueil, somos... la fierté, veut dire.
Somos fuertes, tienen coraje, tienen de todo.
Un peu à l'image de son père, il a mené une lutte contre le Maroc avec une alliance avec l'Espagne, mais pour pouvoir rester rifin. Berbère, comme il dit.
Donc, toi, Farida et Ali, quand vous naissez, vous n'êtes pas espagnol.
C'était pas la nationalité, c'était un numéro. Tu es recensé.
Les Melillenses, jusqu'à 1986, n'avaient pas de nationalité. Ils avaient des numéros. Et c'est pour ça que ton papa vous fait enregistrer au Maroc.
Voilà. Pour pouvoir rejoindre notre mère en Belgique. Oui. Okay. Je l'ai, hein, mon acte de naissance. Et il y a marqué Melija et Farhana. Donc, ils les mettent côte à côte, oui.
Vous êtes
nés
dans deux endroits.
Dans deux endroits différents. La moitié dans l'un et la moitié dans l'autre. Donc, voilà. Ou alors, on était peut-être couchés par terre.
Quand t'étais petite, les castagnettes.
La même musique, hein. Le paso doble. Mais j'ai oublié en fait. Je sais qu'on le met très souple dans le pouce et puis après. Voilà, c'était.
Quelle grâce.
Ah, c'était très beau à faire. Bon. Faut être mince pour faire ça.
Mais non, c'est pas vrai. Si. Pour faire ça à la télé, mais pour faire ça. Ouais.
Tu vois les maisons espagnoles? Ça te fait penser aussi au Maroc?
Certaines maisons, c'est l'Espagne, et d'autres maisons, c'est le Maroc. Ça, par exemple, c'est le Maroc, tu vois. Là, cette rue, c'est typiquement marocain.
Ouais.
Et puis là, c'est l'Espagne.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Ça, c'est vraiment typiquement des bâtiments que tu trouves en Espagne.
J'ai envie de prendre un ticket ici, mais je vois rien.
Donc, ça, c'est la poste de Melilla, la poste principale. C'est une forme en recommandé que tu vas l'envoyer.
Non.
Courrier simple.
Il n'y a pas besoin de faire un recommandé pour le Palais Royal. On est sûr que ça arrive toujours. Si c'est comme ça, Nicolas.
C'est surtout qu'on va la l'envoyer toutes les semaines.
Ouais. No pones el remite.
Si le roi t'écrit.
Lo voy a poner, si.
Alors,
on va mettre
l'adresse
du dessinateur. Gardons espoir jusqu'au bout. Puedo poner otra dirección. No es de aquí.
Bueno.
Ils vont rien comprendre. Ça vient de la Belgique, mais.
Le poste Amélie.
Por favor. Gracias.
Ça va?
Oui, ça va. C'est fait. L'acte de bravoure qui est le mien. C'est comme si, en fait, je balayais d'un coup de bras tout ce qu'on a tenté comme démarche, et juridique, au niveau médiatique, au niveau citoyen, sensibilisation des personnes autour de nous, parce que je me dis, on n'aura pas obtenu gain de cause. Et il faut solliciter le roi. Ça, pour moi, ça reste quand même une méthode assez gênante, dans le sens où aussi une demande de grâce, c'est quelque chose de moyenâgeux. Je sais pas, c'est peut-être notre façon de voir les choses parce qu'on est issu d'un autre état et qu'on a une autre mentalité. Mais les Marocains, ils disent tous que c'est le seul moyen parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Je me sens aussi coupable vis-à-vis de toutes ces personnes qui se donnent du mal pour obtenir justice d'une autre manière que celle-là. Donc voilà. C'est assez complexe. Mais ce qui, on va dire, arrive à dépasser le tout, c'est le fait que mon frère actuellement est de nouveau en isolement, sous des conditions terribles, insupportables, et qu'il risque d'être complètement détruit psychologiquement et physiquement si on ne fait pas quelque chose pour ne fût-ce que changer ses conditions de détention et peut-être en venir à le libérer. Donc voilà, je me sens aussi dans l'obligation d'utiliser la dernière carte, et pour moi, c'est la dernière. Donc on verra ce que ça va donner. C'est l'aboutissement d'une lutte qui n'a pas eu gain de cause. Alors qu'on avait tous les droits, on nous a amputés de tous ces droits. Et on a fait des démarches qu'on n'aurait jamais imaginé pas possible de faire, mais qu'on pensait inutile de faire, parce que c'est des droits qu'on a. Et on a dû les faire, comme par exemple traduire l'État belge en justice, gagner le procès en première instance, devoir donc aller en appel, parce que justement l'État belge va en appel, et s'attendre donc à un retour encore après, parce qu'on a aussi gagné en appel, un retour de la part de l'État belge qui a introduit un pourvoi en cassation et qui nous démontre plus qu'avant encore, parce qu'ils avaient déjà fait leur preuve en termes de manque de volonté et de carrément abandon de ces citoyens belges. Là, il s'agit carrément d'une obstination à ne pas nous porter secours, ni assistance d'aucune manière. Donc voilà.
Regarde comme c'est joli le truc ici. Tu vois, venir ici et chanter.
Canta, canta, pa que no se pierde.
Entends, écoutez, entends le son. C'est étudié, hein. Regarde. Allez. C'est très, très beau.
Du temps où je n'étais qu'une gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en écoutant passer le vent. Petite, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la...
Avec les voix de Catherine Rans, Julie Jaroszewski,
Célia Tranchant,
Nathalie Predhomme,
Nadia El-Khattabi,
Anne Mutelet,
Laurence Petit,
Marie-Françoise Cordemans,
Eugenia Fan,
Sana Dani,
Maud Katio,
Oriane Kaliga,
Naïma Zegoud,
Rose Becca,
Sylvie Olivier,
Anne-Marie Lowe,
Chloé Ouyou, Anne Vestrat, Merdia Elouali,
Christine Pierrard,
Sophie de la Collette,
Elisabeth Ocassi,
Farida Arras.
Direction du chœur,
Célia Tranchant.
Mixage, Alice Ferré.
Prise de son studio,
Christophe Lehmann.
Montage son, Pauline Fonsny.
Une création radiophonique réalisée par Julie Jaroszewski.
Avec le soutien du Théâtre National Wallonie-Bruxelles et de l'atelier Graffouille.
Avec le fonds d'aide à la création radiophonique.
Fort, il doit bouger. Et si tu tires avec